Passage, la nouvelle série de podcasts de l'Institut français. Un échange libre et sans modérateur entre une personnalité des mondes francophones et une personnalité néerlandaise sur des thèmes qui leur sont chers.
Bonjour à tous et bonjour aussi à Géraldine. Je suis très contente de pouvoir parler avec vous sur ce sujet qui m'intéresse aussi tout particulièrement.
Moi aussi.
Donc, pour commencer, à quoi sert un dictionnaire?
À oui. Plein de choses. On sait que ça sert évidemment à l'orthographe, comment les mots s'écrivent. Ça sert à comprendre aussi le sens des mots. Que veut dire tel mot que je ne connais pas. Et puis, au-delà de ces deux choses auxquelles on pense, l'orthographe et le sens, ça sert aussi, c'est un formidable outil pour enrichir son vocabulaire, améliorer son expression, puisque là-dedans, alors là, on avait le petit Robert, qui est déjà pas si petit que ça. On a un peu toute la langue française, enfin, toute ce serait prétentieux, mais en tout cas, une énorme partie de la langue française avec des informations sur les mots. Et donc, ceux qui feuillettent le dictionnaire pour le plaisir ne sont pas fous. On va apprendre aussi beaucoup de choses avec le dictionnaire, l'étymologie des mots, leur origine. On va apprendre des synonymes pour enrichir son vocabulaire. On va apprendre les familles de mots, les mots qui sont liés par le sens, puisqu'on a beaucoup de renvois aux mots sémantiquement liés au champ lexical dans le petit Robert. On va vraiment enrichir sa connaissance, sa maîtrise de la langue avec ces outils. Et moi, j'ai beaucoup cette question-là depuis quelques mois. Mais à quoi ça sert encore un dictionnaire avec ChatGPT, l'intelligence artificielle? Bon. Et moi, je crois qu'au contraire, c'est plus utile que jamais parce qu'on a besoin de maîtriser la langue, on a besoin d'un outil, surtout de référence, parce qu'on sait aussi que il y a plein de choses bien dans l'intelligence artificielle. Il y a aussi des choses douteuses, des infox. Et donc, ça reste une référence. Et puis, apprendre à maîtriser sa langue, à ne pas laisser la machine le faire à notre place et continuer à s'exprimer avec ses mots, avec sa propre créativité, pour pouvoir vraiment dire sa pensée de manière singulière.
Oui, ok, oui, tout à fait. Et donc, si vous parlez de l'intelligence artificielle, donc selon vous, c'est aussi une source fiable, le dictionnaire.
Oui, nous, on appelle ça des ouvrages de référence, en
oui,
fait. C'est ça, c'est fait par des professionnels de la langue. Et donc, l'intelligence artificielle, ça va être des modèles statistiques, là où y a de l'humain là-dedans et de la vérification plus scientifique.
Oui, et donc, selon vous, la fonction des dictionnaires a-t-elle aussi changé au cours des années, donc avec le Google Translate et tous les défis numériques?
Oui, c'est beaucoup l'utilisation du dictionnaire qui a changé, hein, surtout puisqu'on avait ces dictionnaires imprimés depuis des siècles. Avec la présentation précédente, aujourd'hui, il y a la consultation numérique qui est très forte. Ça n'empêche pas qu'on a aussi des usages avec l'imprimé, notamment pour les enfants, pour les personnes qui aiment se balader et feuilleter le dictionnaire, parce que c'est aussi un plaisir. Ça peut être un plaisir, en tout cas. Mais l'usage pratique immédiat, ça va être le numérique, avec des dictionnaires qui existent évidemment en version numérique et qui permettent de trouver tout de suite une définition, quel que soit l'endroit où on est. Dans le métro, on peut trouver le sens d'un mot qu'on a entendu. C'est quand même une manière d'utiliser encore plus le dictionnaire finalement.
Oui, et pour la production d'un dictionnaire en ligne, il faut penser à quoi comparer au dictionnaire en papier? Est-ce qu'il y a des différences dans le terme du corpus ou...
Il y a des différences et ce qui est génial avec le numérique, c'est qu'il n'y a pas de contrainte de place. Oui. Là, forcément, on va avoir à peu près 60 000 mots. On pourrait se dire que dans le numérique, on n'a pas de limite et on pourrait tout mettre. Alors, ce n'est pas tout à fait ce que font les dictionnaires de référence, puisque c'est quand même une sélection des mots les plus implantés dans la langue française. Et il y a aussi cette attente-là des publics de se dire, bah, non, n'importe quel mot ne rentre pas dans le dictionnaire. Et
oui,
le dictionnaire,
ça va être ça. C'est quand même déjà très lourd comme livre.
Oui. Mais dans le numérique, ce n'est pas lourd. On peut avoir tout ce qu'on veut. Le Grand Robert, par exemple, qui était un dictionnaire originellement, donc plus de 100 000 mots, 325 000 citations en 9 volumes. Aujourd'hui, on ne l'imprime plus parce qu'on ne le vend plus, hein, c'est trop gros. Mais il est toujours disponible sur abonnement en ligne. Et on a des gens qui s'abonnent au Grand Robert et qui vont pouvoir avoir accès à toute cette richesse de langue française. On a beaucoup d'abonnés.
Et si je cherche un mot dans ce dictionnaire-là et je le cherche après dans les dictionnaires en ligne, est-ce que je vais remarquer des différences entre les définitions?
Alors, sur les définitions, pas tant que ça, c'est plutôt tous les contenus annexes. Donc, dans les versions numériques, par exemple, le Petit Robert, il existe aussi sur abonnement. On va avoir les mêmes définitions. Par contre, on va avoir en plus des dictionnaires de synonymes. On va avoir un dictionnaire de combinaisons de mots. Donc, ça va être les mots qui s'emploient en contexte avec tel mot. Par exemple, le mot candidature, on va pouvoir utiliser avec le verbe présenter une candidature, refuser une candidature ou une candidature, quel adjectif spontané, une candidature sincère, etc. On va avoir toutes les conjugaisons. On va avoir des sons pour la prononciation. Ça ne va pas être écrit, ça va être vraiment prononcé. On va avoir plein d'informations complémentaires. En fait, ce dictionnaire, enfin en ligne, on va avoir tous les dictionnaires rassemblés en un, avec beaucoup plus de choses.
Oui, ok, oui. Donc, selon vous, est-ce que la numérisation des dictionnaires a aussi... est-ce que c'est une bonne chose pour les dictionnaires?
Oui, ça a beaucoup augmenté. La consultation aussi, hein, ça la facilite et ça permet tout le monde ait accès à un dictionnaire. Alors, plus ou moins, parce qu'il y a des dictionnaires gratuits, nous, on a aussi une version gratuite en ligne. Et puis, il y a des dictionnaires sur abonnement qui sont plus pour les professionnels de la langue avec beaucoup plus d'informations plus précises et plus riches.
Oui. OK. Et donc là, vous êtes rédactrice chez Le Robert. En quoi Le Robert se distingue-t-il des autres dictionnaires français?
Alors, Le Robert, on a une culture plus littéraire et on est un dictionnaire vraiment de langue par opposition un petit peu au petit Larousse que vous connaissez sans doute et qui est un dictionnaire vraiment encyclopédique. Le petit Larousse, si vous le mettez à côté du petit Robert, c'est à peu près le même volume. Simplement, il y a des images, il y a des noms propres. Donc forcément, il n'y a pas les mêmes informations. Dans le petit Robert, les articles vont être... Donc là, c'est pas d'images, il n'y a pas de noms propres. En tout cas, dans celui-ci, après, on a plein de versions dictionnaires différentes. Donc les informations autour des mots sont beaucoup plus détaillées. On va pouvoir aller expliquer l'étymologie des mots. On va donner beaucoup de synonymes. Et puis, il y a deux particularités du Robert, c'est les citations. Comme je le dis, le grand Robert, à l'origine, c'est 325 000 citations. Alors là, il y en a 100 000 à peu près dans le volume comme ça, pour vraiment toujours donner l'illustration de ce qu'ont fait les écrivains avec la langue et de ce qu'on peut produire.
Donc, comment ce sont des citations littéraires.
Citations littéraires, essentiellement. Donc, pas juste un exemple forgé, mais vraiment des citations d'auteurs à la fois classiques et plus contemporains. On va avoir du Virginie Despentes, on va avoir du Daniel Pennac, on va avoir des auteurs, Alain Maboncouf, on va avoir des auteurs très contemporains. Et puis, le renvoi analogique, qui était vraiment l'analogie, c'était à la base de la constitution de ce dictionnaire. Je consulte un mot, par exemple le mot « feu », et je vais renvoyer à tout le vocabulaire autour du mot « feu ». Donc, je vais renvoyer à brûler, consumer, pyromane, ignifuger. Donc, je vais aussi pouvoir apprendre les mots et tout le champ lexical et aller chercher d'autres mots pour continuer à explorer en fait de manière un peu infinie le dictionnaire.
Oui, ok. Donc il y a cet aspect plus littéraire.
Plus littéraire et puis oui. Par rapport aussi à ce que fait par exemple Larousse, un aspect plus peut-être un petit peu plus moderne, un petit peu plus les mots en général rentrent un petit peu plus tôt dans le petit Robert que dans le petit Larousse. On suit d'un tout petit peu plus près là où Larousse attend un petit peu plus. C'est deux politiques éditoriales un petit peu différentes, elles sont proches mais un peu différentes. Mm-hmm. On sait qu'il y a des mots notamment de société comme glottophobie, comme féminicide, c'est plein d'exemples, le Moyel aussi, sont rentrés avant dans le Petit Robert et quelques années plus tard en général dans le Petit Robert.
Ok, oui, et quand on parle sur ce processus d'entrée des mots dans le dictionnaire, ça se passe comment exactement? Est-ce qu'on a des vrais critères ou des... Est-ce qu'il faut avoir de l'attention dans les médias ou est-ce qu'il y a une commission qui décide de la sélection des mots?
Oui, tout ça à la fois. Oui. Donc, en fait, un mot, il va rentrer dans le petit Robert et ensuite dans les autres dictionnaires à partir du moment où on considère qu'il est bien implanté dans la langue française, où il en fait partie. Donc, tous les mots qui apparaissent n'entrent pas, puisque tous les ans, on va observer à peu près 1 000 000 de mots nouveaux. Certains en reviennent, on les observe plusieurs fois, mais 1 000 000 de mots, et on va choisir 100 de nouvelles entrées pour le petit Robert. Et on se base sur des critères. Il faut que le mot soit suffisamment fréquent, suffisamment diffusé et suffisamment durable. Donc fréquent, c'est facile, il faut quand même qu'il soit un minimum utilisé. Donc là, on peut observer dans des corpus, des ensembles de textes, des statistiques, combien de fois on trouve tel mot. Mais ce n'est pas suffisant, il faut aussi que le mot soit assez diffusé, c'est-à-dire que même un mot peut-être un peu moins fréquent, mais qu'on retrouve dans plusieurs sources différentes, plusieurs types de textes, qu'on va trouver à la fois dans de la presse, dans différents types de presse assez divers.
Oui, parce que je peux aussi m'imaginer que les différents journaux, par exemple, ont aussi un public différent.
Voilà.
Et que si seulement les journaux les plus spécialistes emploient un mot, que ça ne veut pas forcément dire que c'est employé ou c'est bien intégré dans
la
société.
C'est ça, il y a des termes scientifiques, par exemple, qui vont être qui vont être employés uniquement dans des milieux scientifiques et pas tellement popularisés. Enfin, le grand public va être assez peu confronté. Donc ça, c'est des mots qui vont rester dans des dictionnaires spécialisés. Ils ne vont pas intégrer le petit Robert parce qu'on ne pourrait pas tout mettre. Mais à partir du moment où il y a des termes scientifiques, ça les aiderait, par exemple, pendant l'épidémie de Covid, il y a beaucoup de mots qui ont été massivement diffusés. On va avoir besoin... tout le monde va avoir besoin de les comprendre et donc là, ils vont pouvoir rentrer dans le petit Robert.
Et avec la crise Covid, est-ce qu'on a vu beaucoup de mots qui... on a vu beaucoup de mots d'apparaître, mais est-ce qu'on a... après, on a aussi retiré beaucoup de mots du dictionnaire parce que pas tous les mots ont été durables, je crois.
Justement, il y a quand même le dernier critère qui est la durabilité. C'est pour ça qu'on attend souvent quelques mots, quelques années. Les mots qui rentrent dans le dictionnaire, ils viennent rarement d'apparaître. Parfois, on dit qu'ils sont un peu vieux. Non, on attend un petit peu pour vérifier que le mot s'implante et qu'il reste. Parce qu'il y a des mots aussi qui apparaissent, qui disparaissent assez vite. En ce moment, il y a un jeu dans les cours de récré en France. C'est ce qui s'appelle Quacoubé. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Les enfants font dire à leurs parents ils disent quelque chose d'incompréhensible. Le parent dit quoi ? Et donc, l'enfant dit « Quacoubé », ça ne veut rien dire, c'est un jeu, c'est hyper diffusé, tout le monde l'entend, il est confronté. Par contre, probablement, comme toujours, ça ne va pas rester. Donc, on attend un petit peu de voir.
Vous le mettez sur une liste et après, vous regardez le développement.
Oui. On va les mettre dans une base de données, en fait, tout simplement. Mm-hmm. Et puis, on va les observer, souvent sur plusieurs années, jusqu'à considérer que là, ils sont suffisamment implantés pour rester. Donc, pourquoi ? Parce qu'on ne fait pas sortir les mots du dictionnaire. Donc, c'est très, très rare. On n'aime pas ça. Ce n'est pas le but. Voilà, ça ne rentre pas, ça sort. Puisqu'à partir du moment où le mot il est dans le dictionnaire, il y a une forme quand même de sacralisation auprès des gens. Ah, le mot, il est dans le dictionnaire. Donc c'est important. Donc, on ne les fait pas sortir. Quand on veut rentrer des mots, on nous dit « Mais vous faites forcément sortir des mots parce que sinon, ça ne tiendrait pas dedans. » En fait, non, on va jouer sur les marges, par exemple. Enfin, là, ça ne se voit pas parce que c'est du papier très fin, mais c'est du papier bible, mais il y a 3000 pages. Si on rogne 1 mm de marge, on va pouvoir faire rentrer pas mal de textes supplémentaires. On va pouvoir enlever quelques citations un peu vieillies si vraiment on a besoin de place. On va faire de la place jusqu'à ce que le dictionnaire devienne obèse. Mais par exemple, la dernière fois qu'on a retiré des mots dans le Petit Robert, c'était en 1993. Il y a eu une grande refonte. Au bout d'un moment, ça ne marche plus quand même de faire ça. Oui. Donc de temps en temps, mais assez peu souvent, on va faire un grand ménage, on va dire, et retirer des mots un peu plus vieux. Que d'habitude on laisse et on met simplement une marque, on explique dans le dictionnaire ce mot n'est plus en usage avec la marque vieux. Et après, aujourd'hui, un mot qui éventuellement sortirait lors de la prochaine refonte, on le trouverait toujours dans le numérique.
Oui, ok. Donc là, on a aussi des types de marquages pour indiquer qu'un mot n'est plus utilisé dans les dictionnaires en ligne.
Oui, bien sûr. Il faut toujours avoir la marque qui va indiquer dans quel contexte le mot est utilisé, donc ce qu'on appelle la marque d'usage. Ce mot-là, il est vieux, donc il n'est plus utilisé. Ce mot-là, il est familier, donc attention au contexte dans lequel on l'utilise. Ce mot-là, il est littéraire, donc ça va plutôt être... C'est pareil, on ne va pas trop l'utiliser dans la vie de tous les jours parce que ce serait bizarre. Les marques sont importantes dans le dictionnaire.
Oui, ok. Et quand on considère les mots, des mots qui peuvent être... qui peuvent insulter des gens, parce qu'on a dans ce temps de woke, on a aussi des mots comme ça. Ça vous est arrivé d'avoir des gens qui disent il faut absolument retirer ce mot du dictionnaire?
Ça arrive beaucoup en fait. Ça arrive beaucoup. Il y a beaucoup de choses autour du mot juif par exemple, puisqu'en français, dans la littérature du 19e siècle, par exemple, juif, c'est un peu un synonyme d'avare, ce qui n'est pas flatteur du tout pour les juifs, et évidemment, c'est considéré comme injurieux, mais cet usage, on le trouve, et quand on lit la littérature, on a besoin de le comprendre. Donc, ça va être noté, ça va être précisé, péjoratif, voire injurieux, et c'est important de le préciser. tout ce qui est enjeu raciste aussi. Je sais qu'on a retiré, par exemple, le Mattel a changé les règles du Scrabble aujourd'hui. Il y a quelques, je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette histoire. On n'a plus le droit au Scrabble, dans les compétitions de Scrabble depuis 6 mois, d'utiliser certains mots injurieux comme « youpin », donc c'est une insulte pour les Juifs. Certains mots injurieux pour les femmes aussi, je ne sais plus… Nègre aussi, enfin, il y a une soixantaine de mots qui figurent pourtant dans le dictionnaire et qui ont été retirés du dictionnaire du Scrabble pour les compétitions. Ça a fait beaucoup de débats en France, la plupart des gens se sont insurgés. Ce sont des mots qui existent, ils sont injurieux, il ne faut pas les utiliser, mais ils existent. Et en tout cas, c'est important de les comprendre. Voilà, je fais des mots quand même. Et donc nous, on a aussi parfois des gens qui nous disent « il faut retirer ce mot du dictionnaire ». Non, à partir du moment où on dit qu'il est injurieux, après, voilà, les gens ont l'information et c'est important d'avoir cette information. Et on nous demande, avec le mot femme aussi, c'est très sensible. On a eu beaucoup des gens, enfin beaucoup, de temps en temps des courriers de femmes qui nous disent, mais c'est pas possible de donner comme synonyme, enfin autour du mot femme, de dire, voilà, il y a des synonymes très injurieux pour la femme, morue, greluche, etc. Bah, ces mots, malheureusement, ils existent et donc on donne l'information toujours en expliquant pourquoi et le contexte.
Oui, je crois que parfois des gens pensent que. Parce qu'un mot est dans le dictionnaire, ça permet de l'utiliser ou de
non, ça, pas du ça, tout. Ça permet non. de donner une information pour que la personne qui consulte le dictionnaire puisse décider de l'utiliser ou justement de ne pas l'utiliser, mais en tout cas de comprendre et de comprendre le contexte d'emploi.
Et donc, le contexte est quand même très important avec l'emploi des marques et avec des le contexte historique aussi, avec les citations peut-être.
Ou... C'est ça, oui, et les citations parfois, on voit aussi, hein, peuvent être très vite vieillies. Il y a quelques années, on a fait un grand chantier dans le Petit Robert pour retirer des citations, notamment du 18e, 19e siècle, qui étaient très, très péjoratives pour les femmes. Et c'était pas, alors ça peut illustrer, historiquement ça peut s'expliquer, mais quand c'était pour illustrer des mots qui n'avaient rien à voir, c'était bizarre. Et à une époque, ça choquait pas du tout en fait. Ça choquait pas qu'on dise que, je n'ai plus d'exemple en tête malheureusement, mais il y avait des phrases assez choquantes qui nous choquaient pas il y a 20 ans.
Oui. Et je me souviens aussi quand je travaillais chez Vandal, on avait aussi, j'étais en train de faire. Une mise à jour du dictionnaire, du grand dictionnaire néerlandais. Et il y avait un mot, je crois que c'était le mot singe, le singe. Et on avait un exemple, il a l'air d'un singe. Donc, c'était juste, et c'était l'exemple qui était utilisé pour illustrer ce mot. Donc, et moi, j'ai indiqué à mon patron, on peut plus utiliser cet exemple parce que ça vient d'un temps où on utilisait des exemples un peu péjoratifs pour désigner des mots qui n'ont rien à faire avec le mot singe.
On a eu ça avec le mot cuisse. Il y a quelques années, on a retiré un exemple parce que c'était pour le mot cuisse. Elle a de grosses cuisses. Pourquoi ? Quel est l'intérêt de cet exemple ? Aucun, et c'était plutôt péjoratif pour les personnes. Enfin, c'était
très on n'a pas besoin de on ça pour comprendre le mot.
Cet exemple-là. Il y a plein d'autres exemples possibles qui sont beaucoup moins bizarres.
Donc, en fait, les mots restent les mêmes. On ajoute, mais on ne retire pas des mots, forcément.
Non, seulement pendant les grandes refontes, ça peut arriver. Donc, là, la dernière fois, c'était 93.
Mais les contextes,
Les contextes évoluent. Donc, évidemment, si un mot vieillit, on va ajouter une marque pour dire le mot vieillit. On va beaucoup travailler les exemples. Donc, il y a beaucoup d'exemples qui vont bouger. Tout simplement, je sais plus, par exemple, ça a été récemment, on a changé l'écoute de la musique sur son baladeur par sur son téléphone portable. Parce qu'en fait, il y a des choses aussi qui vieillissent beaucoup dans les exemples, tout simplement. Oui.
OK. Pour continuer encore un peu sur le sujet des mots qui créent des polémiques, pour le Vandal, pour la dernière version de Dick Vandal, je ne sais pas si vous le connaissez tout, c'est le grand Robert du Néerlandais, on a ajouté, pour tous les substantifs, par exemple, pour le mot « le ministre », on a « MVX » maintenant, au lieu de seulement « MV ». Est-ce que cette question de genre joue aussi pour les substantifs français?
C'est très sensible en France comme sujet, très. Il y a pas mal de choses qui ont été faites. On va commencer par le plus simple. La question du genre X, on n'est pas prêt en France, clairement. Pas. Je ne sais pas si vous avez peut-être suivi la polémique autour de l'entrée du pronom non-genré IEL dans le Petit Robert en France. Je ne sais pas si tout le monde... Donc, il y a 2020, on a rajouté d'abord dans la version numérique un pronom non-genré de la troisième personne qui est IEL, qui est la contraction de il et elle, sachant que les pronoms de première et deuxième personne sont non-genrés en français. Hein. Je, tu, il n'y a pas de genre. Donc, on a ajouté le pronom de troisième personne IEL, qui à l'origine, qui peut être utilisé, donc tout simplement dire il ou elle, sans préciser le genre, mais qui est quand même beaucoup utilisé aussi par les communautés de personnes qui se revendiquent d'aucun genre. Et on a eu carrément un débat très violent. On a eu des menaces de mort, enfin, presque on a eu des menaces, on a eu des choses très violentes. Il y a eu de la récupération politique aussi, parce qu'on était juste avant la campagne électorale pour les présidentielles. Et donc, il y a deux camps qui se sont très fortement opposés. Des gens qui trouvaient ça super, et parce que le mot, si on l'a ajouté quand même, c'est parce qu'il était employé, qu'il y avait de l'usage et qu'il était pas récent, voilà, qu'il était assez pérenne, qu'il répondait aux critères. Mais il y a eu aussi beaucoup de gens qui étaient très violemment opposés parce que les débats autour de, du fait que la langue française, qui est une langue quand même assez genrée, hein, donc ces débats-là en France...
Oui, c'est très différent comparé aux néerlandais.
C'est très genré quand même, donc il y a beaucoup de... On ne peut pas facilement créer, dire le masculin et le féminin en même temps. Donc il y a beaucoup de mots épicènes, des mots qui sont comme ministres, identiques au masculin, au féminin, pas de problème. Mais il y a quand même beaucoup de questions de genre. Après, dans le dictionnaire, du coup... Enfin, il y a les propositions autour du point médian, donc par exemple pour écrire agriculteur ou agricultrice, agriculteur.trice, ce qui est une manière de mettre les deux genres, une abréviation écrite. Ça, clairement, il y a quand même il y a plein de gens qui, de plus en plus, hein, c'est employé, mais il y a aussi encore beaucoup d'opposition, donc ça, je ne sais pas, on ne sait pas en fait ce qui va se passer avec ça. Peut-être que l'usage va continuer à progresser, parce qu'il progresse vraiment, ou peut-être que pas. Donc pour l'instant, on est très... prudent, donc on n'utilise pas hein, le point médian, les X, etc. Mais par contre, il y a beaucoup de travaux qui ont été faits sur le dictionnaire pour désambiguiser, parce qu'aujourd'hui, on se rend compte quand même que le masculin générique un peu est ambigu. Il y a eu des études en sociolinguistique qui ont été faites sur le sujet qui montrent que, en français, quand on dit les politiciens, même si on pense aux politiciens et aux politiciennes, en fait, les personnes en face, elles vont penser à un homme, parce qu'on a utilisé un masculin, et donc il y a eu quand même un travail pour, par exemple, à chaque fois qu'on utilisait le mot « homme » dans le dictionnaire, vérifier est-ce qu'il s'agissait bien de l'homme en tant qu'être masculin ou de l'homme en tant qu'être humain. Et quand c'était être humain, par exemple, cheveux, poils qui poussent sur la tête de l'homme, eh ben, on a mis poils qui poussent sur la tête de l'être humain. Parce que le masculin a une forme d'ambiguïté et qu'on est, enfin, c'est un ouvrage de référence scientifique, donc il faut être autant que possible désambiguiser. Pareil, quand on peut, musicien, personne qui joue d'un instrument et non pas homme, hein, si possible, musicien, musicienne.
J'avais pas toujours aussi, possible. Oui, j'avais aussi cette question quand je faisais une traduction à l'ambassade et on parlait des droits de l'homme. Une de mes collègues a dit, mais est-ce qu'il ne faut pas mettre les droits humains? Donc, c'était aussi quelque chose qu'elle a observé en France, que parfois des gens emploient les droits humains au lieu des droits de l'homme. Mais pour l'instant, j'ai gardé les droits de l'homme parce qu'il n'y avait pas de discussion.
Mais... Ouais, il y a un débat quand même. Apparemment, ça aurait été mal traduit parce qu'en anglais, c'était « human rights ». Et ça a été traduit par « droits de l'homme » en français, alors que c'était littéralement les droits humains. Oui. Et donc, cette ambiguïté, elle est là quand même. Avec ce masculin qui vaut pour les deux en français. Et donc, autant que possible, on désambiguise, puisqu'aujourd'hui, en fait, on la ressent plus aussi, cette ambiguïté, puisqu'on est plus sensible à cette question-là. Hein. La société est plus sensible à cette question-là.
Oui. Oui. Okay. Et je me souviens aussi, quand on a préparé cette conversation, que vous avez parlé d'une polémique autour des mots de famille. Que c'était à peu près
on même... avait eu ça en 2013 en France, en 2013 le mariage s'ouvre aux couples homosexuels, Et donc, il y avait des gens qui écrivaient au président en disant « On ne peut pas ouvrir le mariage au couple homosexuel puisque dans le dictionnaire, c'est l'union d'un homme et d'une femme. Donc, on ne peut pas changer la loi puisque le dictionnaire dit que c'est comme ça. » Alors, nous, on expliquait à ceux qui nous disaient « C'est l'inverse, en fait. Si la loi change, le dictionnaire change. » Et de fait, c'était vrai dans le dictionnaire de l'Académie française. Hein, nous, on avait déjà, dans le Petit Robert, union de deux personnes puisque… aux Pays-Bas notamment, le mariage était déjà autorisé aux couples homosexuels dans certains pays du monde. Donc de toute façon, la définition était déjà ouverte et on a encore régulièrement quelques remarques sur les mots de la famille, effectivement, puisque ça implique que quand on dit, mon beau-frère, c'est pas forcément le mari de la sœur. Ça peut être le mari de la sœur ou du frère. Donc on dit le mari de, je ne sais plus ce qu'on dit, mais c'est plus général et il y a des gens qui ne sont pas contents de ça. C'est des oppositions un peu politiques qu'on retrouve, en fait.
Oui. Vous l'avez dit déjà un peu, mais cette question, je crois que c'est très intéressant. Un dictionnaire est-il le miroir des parlers dans la société ou bien le témoignage du patrimoine lexical d'une langue? Parce que, oui, comme vous le dites, pensent que quelque chose est, dans le dictionnaire est un peu fixé, mais vous disiez que c'est l'inverse, en fait.
C'est les deux, parce qu'il y a le patrimoine avec les mots qui sont anciens, qui sont là depuis longtemps et qu'on n'utilise plus, mais qui restent parce qu'on a besoin de les comprendre dans la littérature, par exemple. Et puis, on va dire qu'ils sont vieux. Il y a des mots qui sont de toute éternité. Là, les mots que j'utilise dans ma phrase, par exemple, c'est des mots qu'on utilise depuis des siècles et qui ne sont pas prêts de devenir vieux. Et puis, il y a des mots plus récents qui sont les miroirs, les mots nouveaux qu'on ajoute chaque année. C'est un peu le reflet des préoccupations de la société, des enjeux, des inquiétudes. Avec des mots comme éco-anxiété, glottophobie, des choses un peu. Et puis, les nouvelles technologies. Donc, les nouvelles technologies, c'est relié à une époque. Quand on ajoute les crypto-monnaies, c'est relié à notre époque, à là où, sur télématique et prise spirituelle, on va commencer à dire que c'est vieux. Donc tous ces mots en fait se côtoient. Donc il y a à la fois du patrimoine et du reflet de la société actuelle. Mais on est forcément inscrit dans une époque. Quand on regardait les vieux dictionnaires, alors peut-être pas dans ceux qui ont été présentés tout à l'heure, mais c'est hyper intéressant de regarder les dictionnaires du 16e, 17e siècle. Nous, sur Dico en ligne, notre site gratuit, on a le dictionnaire de Furtière qui est en ligne, et quand on cherche un mot, on a notre définition moderne, et puis tout en bas, on peut aussi trouver la définition comme elle était au XVIIe siècle. Et il y a plein de différences, il y a plein de différences de sens, et il y a plein de différences aussi dans la manière de présenter les choses. Le virus, par exemple, un virus, c'est défini comme la plaie, le pus d'une plaie, je sais plus, une plaie purulente, quelque chose comme ça, j'arrive même plus à trouver. C'est pas du tout la définition qu'on a de virus aujourd'hui. Il y a plein de références religieuses, et il y a plein de références en fait, à la culture de ce siècle-là. Et on peut pas, on essaye d'être le plus neutre possible, je pense plus qu'au XVIIe siècle, mais on ne peut pas complètement s'en abstraire. Donc, on est inscrit dans une société.
Oui, donc vous essayez de faire le témoignage du patrimoine lexical aussi, mais aussi de...
C'est un peu les deux.
Oui, de refléter aussi les tendances dans la société, mais oui, de manière... plus durable.
Voilà.
Ok. Je vous remercie beaucoup pour toutes les informations que vous avez partagées avec nous.
Merci.
Merci beaucoup.